L'heure est venue.
Oui.
Avec Christian Page, Mythe et Complot, Jack l'Éventreur. On commence fort. On commence avec Jack l'Éventreur.
C'est un de mes sujets favoris.
Ah ben moi je suis assez fasciné.
Jack l'Éventreur, ça me fascine parce que bon, bien sûr, dans l'histoire moderne, c'est le premier tueur en série. Bon, il y a eu quand même des grands tueurs à travers l'histoire, mais le tueur en série apparaît avec les villes. Donc c'est l'anonyme au milieu de la ville et qui va finalement garder sous sa coupe. Il va en fait entreprendre un règne de terreur et c'est exactement le premier de ces tueurs-là. C'est Jack l'Éventreur. On rappelle rapidement pour les auditeurs les faits. Automne 1888, 5 prostituées sont assassinées entre le mois de août et le mois de novembre. Et après le 5e meurtre, ces meurtres vont crescendo. Ce sont tous des femmes de mœurs légères. Pas forcément des prostituées. On dit tout le temps des prostituées. Mais le terme précis, ce serait, je dirais, si on va avoir une image, c'est plutôt des vagabondes. Donc des femmes qui n'ont pas de lieu. Elles se prostituent pour pouvoir gagner quelques pence pour se payer des lits dans des dortoirs publics. Donc, c'est vraiment des vagabondes, presque des sans-abri. Et ce sont 5 de ces femmes-là seront les victimes de l'Éventreur. Et les meurtres vont crescendo. Et après le 9 novembre 1888, avec sa dernière victime, une certaine Mary Jane Kelly, les meurtres vont s'arrêter. Et depuis, bien sûr, on s'interroge qui était ce mystérieux Jack l'Éventreur parce qu'il n'a jamais été pris par la police.
Je pensais qu'il avait été identifié, moi.
Pas du tout. Et en fait, c'est amusant que tu me mentionnes ça parce que c'est vrai que j'ai l'impression, moi, chaque année à ce micro, de parler d'un nouveau Jack l'Éventreur.
Ah, OK.
Parce que
c'est pas toujours le même.
Non, voilà, on en est à peu près rendu au 300e candidat à être Jack l'Éventreur. Donc, chaque année, un nouvel auteur nous arrive avec un nouveau livre en disant « Voici la solution finale ». Et écoute, les candidats sont nombreux. On a même, à un moment donné, accusé Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, d'être Jack l'Éventreur. Ah, okay. On a accusé le duc de Clarence, le petit-fils de la reine Victoria, d'être Jack l'Éventreur. William Gould, le médecin privé de la reine Victoria, d'être Jack l'Éventreur. Donc, on voit que les candidats...
Parce qu'on soupçonnait qu'il avait été peut-être protégé politiquement.
Voilà.
C'était un peu
Donc,
solidé.
Il y avait tout ça.
La police ne l'avait pas trouvé. Scotland Yard ne l'avait pas trouvé parce qu'il jouissait d'une protection politique.
Voilà. Donc, tous les scénarios, et le scénario le plus populaire, mais qui ne tient pas la route, bien sûr, quand on connaît les faits, c'est que Jack l'Éventreur était une triade composée de francs-maçons qui agissaient au nom de la reine Victoria pour dissimuler un scandale royal.
Donc, mais on ne connaissait rien de ses motivations. Parce qu'on dit 5 prostituées, ça aurait pu être quelqu'un qui agissait pour des motifs religieux, par exemple.
Possible, mais comme on n'a jamais attrapé l'homme en question, même des services aujourd'hui, on connaît bien la motivation des tueurs en série. Il y a eu des études menées par le FBI, par exemple. Les seules choses que l'on peut dire avec Jack l'Éventreur, et c'est un spéculatif sur l'ensemble de ce que l'on sait, c'est que Jack l'Éventreur devait être un homme blanc, âgé entre 25 et 40 ans. Ça devait être un homme peu instruit, peu éduqué. Et le travail qu'il faisait, s'il en avait un, devait être un travail pur et numéré, et probablement un travail qui lui permettait d'assouvir certaines de ses passions sanglantes. Hein? Peut-être comme travaillait-il comme boucher, peut-être travaillait-il dans un abattoir.
Parce qu'on dit l'Éventreur, il y a une raison pour ça, Jack the Ripper.
Et quand je t'ai mentionné que les crimes allaient crescendo, sa première victime, une dénommée Mary Nichols, le 31 août 1888, il lui tranche la gorge et lui assène quelques coups dans l'abdomen. Donc... Et la dernière victime, la 5e, Mary Kelly, la seule d'ailleurs à être assassinée dans un appartement, les autres l'ont été dans la rue, sa 5e victime, il va littéralement la dépecer en petits morceaux. Donc son surnom...
Et comment on sait que c'est la même personne qui a tué les 5, si c'était pas nécessairement le même motus operandi?
En fait, il tranchait la gorge de la même façon. On voyait d'un crime à l'autre le crescendo, mais ce que tu fais comme réflexion est tout à fait fondé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves, disons, médico-légales qui prouvent que l'Éventreur a commis ces 5 crimes-là. On y va sur les spéculations de la police et lorsqu'il ferme le dossier en 1894, donc je te rappelle, les meurtres cessent le 9 novembre 1888. Mm-hmm. Et en 1894, il y a d'autres crimes qui se sont ajoutés au dossier de l'Éventreur. Mais en 1894, le directeur du département des enquêtes policières, un type qui s'appelle Melville McNaughton, va fermer le dossier et il met une note au dossier en disant « Le dossier de l'Éventreur contient 7, 8, 9 9 victimes. Mais de toutes ces victimes, on sait que l'éventreur n'en a tué que 5. On a la certitude que les 5 victimes canoniques de l'éventreur sont Mary Nichols, Catherine Eddowes, Polly Nichols et Mary Jane Kelly.
Tu connais les 5 noms par cœur?
Donc, on sait que ce sont ces victimes-là.
Okay.
Et les autres crimes, le policier dit, les autres crimes sont des copycats. Hein? Donc, des crimes où l'assassin a essayé de reproduire la technique de l'éventreur, mais l'éventreur n'a seulement que 5 victimes. Et ça nous amène à la nouvelle du jour. Hein, tu vois, il y a un type qui sort un livre qui s'appelle « The Man Who Would Be Jack, The Hunt for the Real Ripper », l'homme qui pourrait être Jack à la poursuite du vrai éventreur. Et là, il nous dit que cet assassin est un type qui s'appelle Thomas Cutbush. Mais le problème du Thomas Cutbush, c'est qu'il est mentionné dans les dossiers de Scotland Yard que je te mentionnais un peu plus tôt. Il est mentionné noir sur blanc. Et en fait, il est la motivation pour laquelle on a fermé le dossier de l'éventreur. En 1891, ce dénommé Cutbush avait été arrêté parce qu'il avait lacéré des robes de femmes sur la rue. Donc, il suivait une femme, a sorti un couteau et a lacéré sa robe. Il l'a pas blessé, il a pas assassiné la dame en question. Il s'est simplement contenté de lacérer les robes.
Alors, ça l'a rendu suspect, évidemment.
Et là, ça l'a rendu suspect. Les journaux en avaient parlé, mais quand Scotland Yard ferme le dossier en disant « Cutbush a lacéré des robes de femmes », c'est pas lui l'éventreur. L'éventreur, il faut chercher plus loin. Et jusqu'à maintenant, ben, écoute,
on l'a toujours pas trouvé.
On n'a toujours pas trouvé l'assassin.
Bon, enfin, on l'a toujours pas trouvé avec certitude.
Non, c'est ça. Donc, on n'a pas identifié l'assassin.
Bon, voilà, exact. Mais la quête continue. Il y aura un nouveau livre l'an prochain.
C'est sûr.
Alors, on s'arrête, puisqu'au retour, il faut se garder du temps pour parler du mystère de la construction des pyramides qui serait peut-être enfin, mesdames et messieurs, résolu.
Voilà.
Alors, de retour à Christian Page pour les mythes et complots. Et là, on va parler du mystère de la construction des pyramides. C'est pas résolu, ça?
C'est qui demeure un très grand... En fait, quand on parle de mythes, évidemment, c'est une construction qui a alimenté énormément de mythes, en ce sens qu'on est même été jusqu'à introduire des extraterrestres dans l'équation.
C'est vrai.
Parce qu'on se dit, comment est-ce possible?
Avec les technologies du temps.
Et oui. Durant la pause, on se disait tous les deux, nous avons vu tous les deux les pyramides et même les images ne rendent pas justice au fait de se retrouver devant ces immenses montagnes de pierre faites de mains d'hommes. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. On parle de presque 5 millions de tonnes, 2 500 000 blocs de pierre. C'est gigantesque. Alors, la problématique, comme tu le disais, les archéologues ont plusieurs idées sur la façon dont les Égyptiens soulevaient plaçaient les fameux blocs qui ont servi à la construction de la pyramide. La grande énigme, on sait que beaucoup de ces blocs étaient transportés à venaient d'une centaine de kilomètres plus loin, de la carrière d'Aswan, et qui étaient amenés jusqu'au plateau de Gizeh où les pyramides ont été construites. Mmh. On se demandait, mais comment est-ce qu'on a pu faire ça? Et probablement, tu as en tête des images, par exemple, des 10 commandements où les esclaves tirent les blocs, puis on leur donne des coups de fouet.
On roule ça sur des billots de bois, là.
Et voilà. Et on se disait, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que faut quand même se rappeler que pour construire la pyramide du temps du vivant du pharaon à qui elle doit servir de tombeau, il fallait que le chantier soit achevé sur une vingtaine d'années, ce qui représente à peu près 500 blocs coupés, déplacés, montés et mis en place par jour. 500 blocs par jour. Alors, comment est-ce qu'on a pu faire? Et là, voilà qu'on apprend cette semaine que des archéologues ont trouvé un papyrus, probablement le plus ancien papyrus jamais découvert sur le chantier même des pyramides. Ce papyrus a été écrit par l'un des architectes des pyramides et il raconte comment les blocs étaient déplacés. Et là, voilà, révélation. En fait, les blocs étaient amenés en flottant sur de l'eau. En fait,
sur le Nil.
Voilà. À partir du Nil, on avait construit des canaux qui permettaient d'amener des blocs jusqu'au chantier de la pyramide.
Ah, ça, je trouve que ça a du sens.
Voilà. Donc, les blocs étaient placés comme sur des espèces de barges et on les amenait littéralement au pied de la pyramide. Et de là, on avait simplement qu'à le placer et les monter les uns par-dessus les autres.
Simplement, c'est quand même un travail colossal.
Mais déjà, on vient de résoudre l'une des grandes problématiques, c'est comment on transportait les blocs de la carrière jusqu'au chantier de la pyramide. Et là, voilà que ce papyrus révèle cette information-là.
Donc, pas besoin des soucoupes volantes pour les lever. Pas besoin des soucoupes volantes.
Et on n'avait même pas besoin des arbres, en fait, parce que, évidemment, ouais. L'idée, c'était on coupait des palmiers dattiers, parce que c'était l'arbre qui poussait en Égypte, le palmier dattier, un bois quand même relativement mou. Et si on faisait rouler les blocs sur ces palmiers, il fallait couper, recouper et recouper des arbres à chaque fois. Alors là, ce que nous révèle ce papyrus, c'est que ce n'était pas la technique utilisée vraiment, c'était des barges. On faisait flotter les blocs jusqu'au chantier de la pyramide et une fois là, on pouvait le soulever et le placer.
Ça, je trouve que ça a bien du bon sens.
Ce document-là, Bernard, il date quand même de 2 ans. On l'a trouvé il y a 2 ans, mais comme les archéologues étaient sous contrat avec la BBC, ils n'ont pu révéler le contenu que la semaine dernière.
Ah, l'argent, encore une fois.
Voilà.
Christian Page, Mets tes complots. Je rappelle ton émission le dimanche à 14h avec Jeffrey Soubrani. Écoutez ça, les gens. J'ai le temps de vous remercier d'être là, les auditeurs. Remercie aussi notre équipe, Alexandra Marcoux et Maryse Duchesneau à la recherche, Larry Dufresne à la réalisation et à la mise en scène. Très content d'être là avec vous. On se reparle lundi. Paul Aude et le Québec maintenant arrivent.